le succès des ligues nationalistes. Profitant d'une atmosphère d'incertitude et de doute, les ligues nationalistes multiplient leurs démonstrations de force. L'affaire Stavisky va servir leurs intérêts. La France est alors si fatiguée, si déprimée en 1934, qu'elle est capable de se laisser aller à n'importe quelle idéologie, l'assurant d'une guérison rapide. Cette idéologie se présente alors sous la forme des ligues nationalistes, les camelots du roi qui sont liés à l'action française. Ces ligues prétendent posséder toutes les solutions pour sortir le pays de la crise. Qui est responsable du malaise de la France? Les républicains. Que faut-il faire alors pour guérir la France? Des réformes institutionnelles qui vont renforcer le pouvoir exécutif. Comment impressionner son patient, la France? En organisant des démonstrations de rue, en uniforme, avec l'air menaçant. Et sur quoi prendre appui? Sur une escroquerie, dans laquelle, si possible, on trouve un juif. Cela afin d'éviter l'antisémitisme toujours prêt à surgir comme un monstre qui attend son heure. L'affaire? Elle se présente le 6 février 1934. Alexandre Stavisky, un juif d'origine russe, qui depuis plus de 20 ans vit d'escroqueries diverses, a réussi à tromper ou à acheter de nombreux hommes politiques et des magistrats, jusqu'au jour où ses malversations sont découvertes. Alors qu'il va être arrêté, il est retrouvé le 8 janvier 1934, mort, dans une villa près de Chamonix. Le scandale allait être tellement énorme qu'il a dû se suicider, ou bien qu'on l'a abattu. Le Canard enchaîné titre d'ailleurs « Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres ». Pendant tout le mois de janvier, des manifestations d'extrême droite se succèdent aux cris de « À bas les voleurs !» se déchaînant contre la racaille des spéculateurs, en des termes d'une violence tellement inquiétante que le nouveau président du Conseil, Édouard Daladier, renvoie le préfet de police fort apprécié de la droite, Jean Chiappe. C'est mettre le feu aux poudres. Le 6 février 1934, jour de la présentation du nouveau gouvernement au Palais Bourbon, des ligues d'extrême droite, l'Action française, les jeunesses patriotes, les Croix de Feu, appellent à une gigantesque manifestation à laquelle vont participer aussi les anciens combattants républicains de tendance communiste. Ce qu'ils veulent, c'est atteindre le Palais Bourbon. Mais il faut pour cela passer le pont de la Concorde sur lequel sont massés des gardes à cheval et qui vont immédiatement tirer sur les premiers manifestants qui tentent de s'avancer. De 10h du soir à 3h du matin, les émeutiers tentent de franchir le pont, sans succès. La manifestation a fait plus de 20 morts et 2000 blessés. Daladier doit démissionner. Le président Lebrun fait appel à l'un de ses prédécesseurs, Gaston Doumergue, pour former un gouvernement d'union nationale. Les événements de février 1934 font craindre un coup de force fasciste. Toutes les forces de gauche s'unissent. Le Parti communiste lui-même se joint au mouvement antifasciste sous l'impulsion de Moscou. Maurice Thorez souhaite alors un front populaire qui rassemblerait communistes, socialistes et radicaux. C'est chose faite en 1935, le 14 juillet. Un immense défilé de 500 000 personnes s'étire de la Bastille à la République. Édouard Daladier, Maurice Thorez et Léon Blum, le chef de la SFIO, y sont acclamés. Les trois maîtres mots de cette manifestation sont « travail, paix, liberté ». Toujours dans la crainte du fascisme, les socialistes et les communistes reforment une CGT unifiée.
Pendant ce temps chez nos voisins, en 1917 en Russie, le 2 mars, 15 mars de notre calendrier, le tsar Nicolas II abdique. Depuis le 23 février, le 8 mars, les bolcheviks, ouvriers russes dont Lénine est le chef du parti, ont manifesté et appelé à la grève. Les soldats se sont mutinés contre leurs officiers. Ensemble, ils se sont emparés des bâtiments publics et ont formé un gouvernement provisoire. Ce premier temps de la révolution est suivi d'un second, le 24 octobre, 6 novembre, de la même année. Les bolcheviks s'emparent du palais d'hiver et des points stratégiques dans la capitale Petrograd. La ville est aux mains des insurgés le 25 octobre, 7 novembre. Le deuxième congrès des soviets se réunit. Il élit le Conseil des commissaires du peuple, composé uniquement de bolcheviks et présidé par Lénine. En février 1920, Mussolini fonde le Parti fasciste italien. Le 31 janvier 1933, en Allemagne, Hitler devient chancelier du Reich. En mars, il obtient les pleins pouvoirs. Le 14 octobre 1933, l'Allemagne annonce qu'elle se retire de la SDN. Le 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux permet à Hitler d'éliminer ses adversaires. Le 2 août, après la mort du maréchal Hindenburg, il devient chef de l'État. Le 11 décembre 1937, l'Italie se retire de la SDN.